Bonjour à toutes et à tous dans le mag. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, chat alors avec Emeline Blanc-Gauthier, comportementaliste félin. Et cette semaine, Emeline est au téléphone avec une éleveuse de chats de la race British, je crois, pour parler de reproduction chez les chats, évidemment. Avant ça, dans le mag, on va s'intéresser avec Arthur en stage avec nous depuis plus d'un mois maintenant. Aux élections législatives, ça approche. C'est dans quasiment deux semaines, Arthur.
Eh oui, ça arrive très vite.
Je te dis bonjour parce que je l'ai pas encore fait.
Bonjour David.
Rappelle-moi-nous les dates des élections.
Alors du coup, c'est le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second tour, s'il y en a un.
T'as raison, parce qu'il est possible qu'il n'y ait pas de second tour. On verra les cas de figure avec toi. On connaît désormais tous les candidats pour les trois circonscriptions de l'Aveyron, hein, puisque la date limite de dépôt des candidatures, c'était il y a quelques jours. Donc on va être complet, j'espère bien, grâce à toi Arthur, dans cette émission. Alors, pour ces législatives 2022, en Aveyron déjà, Arthur, combien de candidats en tout?
Alors 29 cette année, donc c'est un de plus qu'il y a 5 ans, en 2017.
D'accord.
Et donc, ils sont répartis sur les 3 circonscriptions. Alors, il y en a 9 sur la circonscription de Rodez, la première circonscription, 11 sur la circonscription de Villefranche, qui est un peu plus fournie, ouais. Et 9 à nouveau sur la troisième circonscription, celle de Millau.
On va regarder ensemble dans le détail toutes ces candidatures et on va commencer par la première circonscription de l'Aveyron, celle qui concerne Rodez et le nord du département, Arthur. Hein.
C'est ça, tout à fait, avec Stéphane Mazard, candidat sortant qui se représente donc pour La République En Marche. Il aura donc en adversaire pour le Rassemblement National, Julia Plane, Léon Thébault qui se présentera pour l'Union de la Gauche, Godefroy Besse de Berck pour Reconquête, Magali Bessaou pour Les Républicains, Antoine Dacrouze pour le parti Résistons de Jean Lassalle, Arlette Saint-Avy pour Lutte Ouvrière, Marie-Françoise Dumay pour le parti Animaliste, et enfin Jean-Philippe Armette pour Debout la France.
Parfait, merci Arthur. On enchaîne direct avec la deuxième circonscription, celle de l'Ouest Aveyron, Villefranche de Rouergue et tout ce coin-là du département.
C'est ça, tout à fait, une circonscription très fournie, donc avec 11 candidats. D'ailleurs, hein, pour l'ordre des candidats, je précise que j'ai fait cet ordre par rapport aux résultats des dernières élections présidentielles, par rapport aux résultats des partis en général. Quoi.
Ok.
Donc, Anne Blanc, qui était élue il y a 5 ans, ne se représente pas. Mmh. La République En Marche a donc aligné Samuel Degara pour son parti, donc qui se présente sur cette deuxième circonscription. Le Rassemblement National présentera Bruno Leleu. Pour l'Union de la Gauche, ce sera Laurent Alexandre. Le parti Reconquête présentera Dominique Duval. André Hatt se présente pour Les Républicains. Jean-Luc Vidal se présente pour les divers souverainistes. Lucille Elédry se présente pour Lutte Ouvrière. Éric Cantournet se présente pour les partis radicaux de gauche. Florian Barthes se présente pour les partis divers droite. Myriam Cassarini se présente pour les partis divers écologiques. Et enfin, Dominique Clerc se présente sans parti particulier affiché.
Ouais, 11 candidats hein, pour cette deuxième circonscription de l'Aveyron, c'était la plus fournie, ça va mieux aller.
On aura du choix, voilà.
Oui, ça c'est sûr. Ok, alors on enchaîne avec la troisième et dernière circonscription du département de l'Aveyron, celle du Sud, hein, autour de Millau notamment.
Exactement, et c'était Arnaud Viala qui s'était fait élire il y a 5 ans et qui, on le rappelle, a quitté son poste. Donc le poste est vacant depuis quelques mois. Mmh. Les Républicains vont présenter Christophe Saint-Pierre en candidat cette année. La majorité présidentielle, La République En Marche, va présenter Jean-François Rousset. Le Rassemblement National a aligné Jean-Christophe Cazorla sur cette circonscription. L'Union de la Gauche présentera Michel Rhin. Lisiane Tandil se présentera pour le parti Reconquête. Jean-Marie Dor se présente lui aussi pour le parti Résistons. Thierry Noël se présente pour le parti de la décroissance, un parti écologique. Ensuite, ce sera Bernard Combes pour l'extrême gauche. Et enfin, Patrice Mirand pour un parti divers écologique.
Parfait, merci beaucoup Arthur. Donc pour ces 29 noms, 29 candidats aux élections législatives sur les 3 circonscriptions de l'Aveyron. On rappelle que le premier tour des élections c'est le 12 juin. Le second, s'il y en a un, bah, ça sera le 19, la semaine d'après. Et tu vas nous rappeler un petit peu, si tu veux bien, les règles pour déjà être, pourquoi pas, élu dès le premier tour, ça peut se présenter. Et puis aussi, pour pouvoir accéder au second tour, il ne suffit pas d'être deuxième, mais tu vas tout nous
dire. Tout à fait. Alors, pour gagner dès le premier tour, c'est très simple. Il faut déjà avoir 50% des suffrages. Bon, ouais. ça paraît logique. Ouais. Mais aussi, il faut avoir le vote d'au moins 25% des inscrits. C'est important parce qu'on sait que la participation, elle est plutôt faible dans ce genre de scrutin. Et donc, elle va avoir son importance.
D'accord. Donc, ce n'est pas évident qu'il y ait de nombreux candidats qui soient élus sur le premier tour.
C'est assez rare.
Même s'ils ont
surtout sur les dernières années en Aveyron.
Très bien. Pour le deuxième tour, pour se qualifier, là, pareil, il ne suffit pas d'être deuxième.
Non, on peut être troisième et être qualifié pour le second tour. Alors pour cela, il faut obtenir 12,5% des inscrits. Donc c'est assez rare aussi également. On l'a pas vu dans les dernières années, mais en tout cas, c'est une possibilité aussi pour être qualifié au second tour.
Ouais, une triangulaire. C'est vrai qu'on, tu as regardé, on n'a pas trouvé de triangulaire en Aveyron depuis au moins les élections législatives du 21e siècle. Alors, on n'est pas allé chercher plus loin, mais pour l'instant, il n'y en a pas eu. Alors, comme tu nous l'indiques un petit peu, et ce qu'on comprend, c'est que la participation va avoir son importance hein, à l'occasion de ces élections législatives. On sait que bon, l'Aveyron, souvent, moi je regarde les soirées électorales, dans les départements qui votent le plus, tu as souvent l'Aveyron. Hein. Mm-hmm. Bon, tu vas nous rappeler un petit peu les chiffres d'abstention ou de participation, comme tu veux, lors des dernières législatives, s'il te plaît. Arthur.
Alors du coup, pour les dernières législatives, la participation, elle s'est élevée entre 57 et 59% entre les trois circonscriptions, donc c'était quasiment 10% plus élevé que la moyenne nationale.
D'accord.
Et c'était pareil du coup pour l'abstention qui se jouait entre 40 et 42%, donc pareil, 10% en dessous de la moyenne nationale du coup.
D'accord. Ouais, donc tu nous disais aux dernières législatives entre 57% de participation, c'est ça?
On peut prendre ça. Par exemple, si on prend l'exemple de la première circonscription, on avait 58,21% des gens qui ont participé, ce qui faisait 44 000 personnes à peu près qui ont voté.
Il y avait déjà une forte abstention.
Il y a 77 000 personnes, presque 78 000 personnes sur cette circonscription.
D'accord. Et puis là, les sondages, etc., disent que la participation s'annonce peut-être plus faible cette année pour les législatives qu'en 2017. Bon, on verra bien. On y sera. Toi, tu votes en Aveyron, Arthur ?
Et non, je vote dans ma région natale.
Ah.
Haute-Garonne.
D'accord. Pareil, tu connais la liste de tous les candidats ?
J'ai pas regardé. Faut pas me taper, mais j'ai pas regardé.
D'accord. Non, mais ça veut dire que c'est très bien. Tu as bien travaillé pour faire le point avec
je
nous.
Je dédie mon cœur à l'Aveyron en ce moment, c'est pour ça.
Très bien. Bravo. Bravo, t'as raison. Bon, merci beaucoup, Arthur.
Avec plaisir.
Allez, le mag se poursuit avec Chat-Alors, Emeline Blanc-Gauthier, comme tous les vendredis. Emeline, cette semaine, a une invitée pour parler reproduction chez le chat.
Bonjour, Emeline Blanc-Gauthier, comportementaliste félin. Chaque semaine, dans Chat-Alors sur CFM Radio, je vous parle des chats. La semaine dernière, Sylvie, éleveuse de British, nous a expliqué la reproduction jusqu'à la gestation. Le podcast de cette émission sur la reproduction des chats par les éleveurs est sur le site de CFM Radio, sur mon site aussi et sur les réseaux sociaux Emeline Blanc-Gauthier, comportementaliste félin 12. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Mounier, qui est aussi éleveuse de chats de la race British et qui va aussi nous parler reproduction. On va faire donc la suite de l'émission de la semaine dernière. Bonjour à Valérie et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Emeline, ravie d'être là et de participer.
La semaine dernière, avec Sylvie, nous avons parlé du choix des reproducteurs, l'accouplement, la gestation. Maintenant, l'heure est venue pour la maman chat de mettre bas. C'est un accouchement, on appelle ça mise bas pour les animaux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ?
Et en fait, au bout, en moyenne, une gestation dure environ 65 jours. C'est un peu variable d'une femelle à l'autre, d'une race à l'autre. Mais dans les derniers jours de la gestation, on observe un changement de comportement chez la future maman. Et c'est grâce à ces signes que l'on commence à se préparer à la mise bas. Pour donner quelques exemples, les derniers jours, le chat est plus calme. Il y a aussi une variation de sa température corporelle qui baisse d'environ 1 degré. Sachant que la température chez le chat, c'est normal, est de 38,5. Vers 37,5, on rentre dans les 24 dernières heures environ. Hein. Bien sûr, tout ça est approximatif. À ce moment-là, la femelle, il est souhaitable déjà de la mettre dans une pièce dédiée afin qu'elle se repose et qu'elle se prépare tranquillement à la mise bas. Dans les signes physiques que l'on peut observer, il y a une sorte de pré-travail. Donc le chat semble très concentré, il y a quand même quelque chose, mais très très discret, qui peut se voir plus ou moins selon la femelle. Et les éléments vraiment physiques, on peut observer un début de montée de lait, on peut observer la perte d'un bouchon muqueux qui indique que vraiment on est dans le début de la mise bas.
Au moment des premiers signes de mise bas ou quand la mise bas commence, est-ce que tu les accompagnes? Est-ce que tu deviens la sage-femme des chats ou est-ce qu'elles sont autonomes?
Alors, le rôle de l'éleveur est très important hein, puisque nous ne sommes pas, entre guillemets, dans la nature sauvage. Donc, chaque chaton est extrêmement précieux et de ce fait, on va déployer toutes les ressources de la médecine, entre guillemets, vétérinaire pour réussir au mieux l'accompagnement, l'aide à la mise bas, les soins au nouveau-né. Donc, dès que l'on est certain que le travail a commencé, c'est-à-dire qu'on a un début de contraction, on sait que la mise bas a réellement commencé. Le pré-travail est terminé. Donc, on rentre vraiment dans la phase active de la mise bas. Donc, à ce moment-là, on doit, en tant qu'éleveur, être extrêmement vigilant à tous les signaux que va émettre la femelle. Il faut être sûr qu'elle va bien, qu'elle ne souffre pas de façon anormale et que le temps entre chaque chaton reste normal. Parce que si dans pratiquement toutes les mises bas, c'est censé se passer bien, il y a des complications possibles. Donc, pour une mise bas normale, il y a un travail, donc un début de travail qui commence avec des contractions qui vont être espacées. Pourquoi c'est espacé? C'est parce que le chaton doit descendre et se diriger donc vers la sortie. Et ce travail demande du temps. Donc, le premier chaton qui demande en principe un peu plus de temps que les suivants. Donc, lorsque les contractions vont vraiment être des contractions d'expulsion, elles vont devenir plus rapprochées et plus fortes. Et lorsqu'on a de l'expérience en tant qu'éleveur, on est capable d'estimer exactement à quel moment du travail on se situe. Et c'est ce qui permet d'intervenir si quelque chose était anormal. Restons sur le cas de figure où ça se passe très très bien. Donc, lorsque l'on a une série de contractions d'expulsion, à ce moment-là, la femelle va expulser un chaton qui va naître dans deux positions possibles, soit en siège, soit par la tête. Quand c'est par les pattes, ça met un tout petit peu plus de temps, mais ça reste une naissance normale. Il ne faut pas effectivement que la tête soit coincée, parce qu'à ce moment-là, l'éleveur va devoir intervenir pour aider à l'expulsion manuellement. Mais en principe, voilà, sauf complications, ça se passe bien. C'est sûr que moi, en tant qu'éleveur, je préfère un chaton qui se présente par la tête. Donc, quand il se présente par la tête et quand il vient tout entier avec la poche, le cordon, le placenta, c'est la meilleure version et c'est celle qu'on préfère. Parce que parfois, on est obligé d'attendre plusieurs minutes l'expulsion du placenta.
Tu es présente à chaque mise bas?
Je suis toujours présente. Les derniers jours, je suis vigilante jour et nuit. On met des réveils toutes les deux heures pour vérifier que ça n'a pas commencé pendant qu'on dort. Parce qu'il y a des mises bas le jour et il y a des mises bas la nuit.
Alors, les bébés sont nés. Tu vas les garder avec leur maman pendant un certain temps. Est-ce que tu peux nous expliquer le premier mois, le deuxième mois et le troisième mois, résumé, qu'est-ce qui se passe pour eux dans la vie à l'élevage?
Donc, lorsque le chaton naît, on commence par faire des soins. Alors, la mère est en théorie tout à fait capable de s'occuper de son chaton, mais en réalité, il y a des femelles, notamment les nouvelles mamans, qu'on appelle les primipares, qui ne sont pas forcément tout à fait mûres et aptes à s'occuper correctement du chaton lorsqu'il vient au monde. Donc, selon la femelle, l'éleveur va être un peu plus intervenant qu'avec d'autres femelles. Donc, si on part de l'idée que la femelle est vraiment très expérimentée, lorsque le chaton naît, on la laisse faire Et généralement, elle va commencer par lécher la tête du chaton pour dégager les voies respiratoires. Puis, elle va lui lécher le dos, le ventre pour faire une stimulation des voies respiratoires, ce qui est vraiment en fait extraordinaire dans la nature, hein, d'observer une maman très expérimentée. Elle va couper le cordon, elle va en principe manger le placenta, ce qui n'étant pas vraiment utile en élevage, on peut préférer ne pas lui laisser afin qu'elle n'ait pas de troubles digestifs les premiers jours. Et puis, une fois qu'elle s'est occupée de ce petit chaton, en principe, le travail reprend puisque généralement, il y a plusieurs chatons dans une portée. Il faut savoir qu'en léchant le chaton et son placenta, elle a une augmentation de l'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour maternel qui fait que la femelle va aimer son chaton et s'en occuper. C'est pour ça que quand il y a des femelles peu maternelles, elles peuvent tout à fait avoir une réaction violente au moment de la vision d'un chaton. Et là, c'est utile de leur proposer de lécher le placenta et d'aider à la familiarisation. Mais généralement, une bonne maman, ça fonctionne tout seul. Donc, lorsque tous les chatons sont nés, on fait déjà des vérifications. On regarde leur bouche, on regarde leur nombril, on vérifie qu'il n'y a pas de malformation visible, type fente palatine, hernie ombilicale, des malformations visibles. Et si tout va bien, qu'on constate que le chaton va bien, qu'on l'a pesé et on prend tout en note, hein, parce que au cours d'une naissance, en fait, on note l'arrivée des chatons, leur poids, couleur, sexe. Et à partir de ce moment-là, on aura un suivi très régulier de leur prise de poids. Donc, la maman, on va considérer qu'elle a terminé la naissance, elle a tous ses petits chatons et ils vont commencer par prendre le colostrum, qui est donc très précieux puisqu'il contient des anticorps maternels. Lorsqu'il y a besoin, on peut proposer un complément de biberon. Si jamais la maman est fatiguée ou que le chaton est vraiment de petit poids et qu'on estime en tant qu'éleveur qu'il faut l'aider, à ce moment-là, on va nourrir les chatons. Parfois, on doit carrément remplacer des mamans par un allaitement artificiel qui est très prenant puisque les chatons vont être nourris toutes les 2-3 heures la première semaine, jour et nuit. Ça, c'est, on va dire, pour les premiers jours. Le premier mois, le rôle de l'éleveur reste à peu près celui-là puisque c'est le moment de l'allaitement exclusif. Donc, c'est à partir de l'âge d'environ un mois qu'on doit entamer la diversification alimentaire et ça, c'est un moment très important pour le développement futur du chaton, parce que la maman ne va plus avoir assez de lait, c'est prévu, c'est normal, hein, c'est prévu pour le détachement, parce que c'est tout un processus normal dans l'éducation du chaton. Après l'allaitement exclusif, il y a donc l'introduction alimentaire, alors on va y commencer par des petites choses, parfois je commence par des produits laitiers, pour compléter l'allaitement maternel, puis après on présente des petites pâtés spécifiques chatons, puis des petites croquettes premier âge. En même temps que cette étape de l'alimentation, ça correspond vraiment à l'âge où les chatons vont s'éveiller. Ils vont commencer à sortir du nid, à découvrir un parc où on aura mis des petits jeux d'éveil et surtout où on aura mis une petite litière afin qu'ils découvrent l'autonomie dans les besoins et la propreté. Et ça va très très vite, hein. Il y a des chatons de moins de un mois qui arrivent à aller faire leur petit pipi dans la litière chaton, c'est juste trop mignon. Et voilà, donc ça c'est l'étape, on va dire entre un mois et deux mois, il se passe énormément de choses au niveau de l'éveil du chaton, puisque déjà, la prise de poids est spectaculaire, hein, entre la naissance où le chaton va peser environ 100 grammes et les deux mois où, selon les races, il va faire entre 800 et un bon kilo. Il faut imaginer quand même que pour lui, ce sont des semaines capitales. Et elles sont capitales dans son développement physique et surtout aussi dans son développement psychologique. D'où la nécessité de laisser les chatons avec leur mère et leurs frères et sœurs jusqu'à environ 12 semaines. Donc là, on est même sur le troisième mois.
Oui, la loi prévoit la cession des chatons à partir de 8 semaines, les éleveurs 12 semaines, et moi, en tant que comportementaliste félin, je recommande aussi 12 semaines. Le chaton est prêt à quitter l'élevage, il a 3 mois. Comment choisis-tu les adoptants ?
Alors, je sélectionne de façon drastique, hein, c'est-à-dire que c'est quasiment un entretien d'embauche. Et je demande aux gens de se présenter tout d'abord à l'écrit, on présente leur projet et je pose quelques questions si leur présentation ne répond pas à toutes mes questions. Puis si ça correspond à mes attentes, puisque moi je cherche des familles qui ont un vrai projet d'adoption, c'est pas juste une envie rapide d'avoir un chat ou une envie de chaton pour des enfants. Donc je cherche à rentrer dans la compréhension de leur projet, de leur motivation. Je demande s'ils ont déjà pris des dispositions pour le chaton, pour les problèmes de garde, de vacances, enfin de vérifier qu'ils sont en mesure de répondre à tous les besoins du chat, de respecter mes consignes, puisque je demande une introduction chez les gens qui va être différente selon s'ils ont des enfants, des animaux, etc. Donc chaque projet, en fait, nécessite un accompagnement personnalisé. Et voilà, donc je ne prends des familles que si elles répondent à mes attentes pour la vie future du chaton.
D'accord. Tu fais combien de portées par an ? Tu as combien de petits en moyenne chaque année ?
Alors, on va dire que ça fait plus de 10 ans que je fais des chatons et que si je fais une moyenne, environ 3 portées par an.
Est-ce que tu gagnes de l'argent en élevant et en vendant des chatons de race ?
Non, on ne peut pas gagner d'argent dans un élevage passion, dans le sens qu'il faudrait, pour vraiment faire tourner un élevage et en tirer un revenu, avoir beaucoup de chats et beaucoup, beaucoup de portées. Et pour ça, bon, c'est un autre projet, c'est un autre type d'élevage, donc c'est pas mon choix. Moi, j'ai fait le choix de la qualité et pas de la quantité, tant au niveau des reproducteurs que des chatons.
Pour rappeler, Valérie, tu es éleveuse de la race British. Est-ce que tu peux nous donner ton site internet, ta page Facebook, pour que nos auditeurs puissent aller voir les photos de tes chatons et pourquoi pas avoir un coup de cœur?
Alors, c'est les British du Clos de Génie que vous trouverez donc sur Facebook, sur internet et aussi sur Instagram où j'ai une page qui est active où je mets des stories tous les jours et beaucoup de vidéos et de photos des chatons anciens, présents, et puis voilà.
Tu es à Versailles, c'est ça ?
Je suis juste à côté de Versailles, en région parisienne, à Rocancourt.
Merci Valérie du temps que tu nous as accordé pour nous expliquer donc la partie 2 de la reproduction des chats. Éleveur, c'est un métier, on le dira jamais assez, la reproduction doit être laissée à ses professionnels. Les chats de maison, que l'on appelle, doivent être stérilisés pour éviter une surpopulation féline. J'y tiens beaucoup à faire passer ce message à chaque fois. Voilà, la stérilisation des chats de maison, la reproduction aux professionnels, c'est un vrai métier et ils le font par passion et non pas pour gagner de l'argent. C'était ma conclusion, Valérie. J'espère que tu es d'accord avec moi. En tout cas, merci du temps que tu nous as accordé. Merci d'avoir transmis ta passion. Merci aux auditeurs. Et donc, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur la reproduction du chat par les éleveurs professionnels sur le site de CFM Radio, sur mon site internet, les réseaux sociaux, Emeline Blanc-Gauthier, comportementaliste Félène 12 et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Emeline, voilà, c'est déjà la fin du MAC pour aujourd'hui. Bonne fin de journée, bon week-end à toutes et à tous et bien sûr rendez-vous lundi, même heure pour une nouvelle édition.